avant la prêtrise. En fin de compte, c'est parce que quand j'avais une vingtaine d'années, je m'étais beaucoup posé des questions sur la foi, et puis je m'étais posé les questions d'une vocation. Mais j'en avais parlé à certains prêtres qui m'avaient dit que c'était pas très sûr dans mon cœur et qui m'avaient plutôt conseillé de travailler. Puis ça avait été un bon conseil, je pense. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans le trésor public en étant percepteur en région parisienne, dans le nord de la France, en Saône-et-Loire. Et c'est quand je me suis retrouvé en Saône-et-Loire que j'ai rencontré d'autres prêtres qui m'ont accompagné. Et je me suis posé des nouvelles questions au bout d'une dizaine d'années en me disant, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Et j'avais envie de me donner plus pleinement, d'accomplir vraiment quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité de l'administration et de rentrer au séminaire de Paray Monial.
D'accord, donc vous aviez 40 ans, je crois, c'est ça?
Alors quand je suis rentré au séminaire, j'avais 33 ans.
Ah oui, 33 ans.
Il a fallu 7 ans de séminaire.
Ah oui, oui, 7 ans de séminaire, oui.
Et... On m'a pas fait grâce une seule année, on m'a fait faire tout le parcours.
Oui, d'accord. Et oui, alors bon, bah, c'est vrai, hein, c'est quand même assez exceptionnel parce que, comme ça, se retrouver, avoir cette envie hein, d'être poussé. Vous avez beaucoup réfléchi, je présume.
Oui, moi, ma foi, c'est une foi assez raisonnée. J'aime bien trouver des arguments, trouver des raisons de croire et des raisons de s'engager. Et donc, c'est à travers certaines lectures, des lectures de pères de l'Église, notamment, qui m'ont fait comprendre que la foi chrétienne valait le coup de s'engager dans une belle aventure.
Et alors, pour parler de votre famille, c'est une famille catholique ou pas du... Enfin, pas du tout, peut-être pas, non, mais je veux dire...
Oui, c'est plutôt une famille catholique.
Oui, quand même, oui, oui.
Mes frères et sœurs aussi.
D'accord.
Alors, ils ne sont pas tous pratiquants à 100%.
Non, mais enfin, ça ne veut voilà. pas dire, hein, c'est ouais. pas parce qu'on n'est pas pratiquant qu'on n'est pas croyant, hein, non
Exactement.
Plus.
Exactement.
Hein. Et alors, comment ils ont... Alors, vos parents, comment ils ont ressenti ça quand vous leur avez dit « je rentre au séminaire » Comment on réagit dans la famille?
Comme moi, je suis une famille nombreuse, hein, j'ai 5 frères et une sœur, et qu'il y avait déjà la descendance qui était accomplie et promise vers des petits-enfants. Ça n'a pas été trop dur pour mes parents d'accepter ce choix-là. Ils se sont un peu inquiétés en se disant « bon, la prêtrise, est-ce que ça va vraiment être pour lui un lieu d'accomplissement ?» Mais j'étais plutôt serein.
D'accord. Donc, alors vous êtes parti. Alors vous avez fait toutes les étapes parce qu'on n'arrive pas évêque comme ça là, en claquant des doigts. En claquant des doigts. Oui.
D'abord, évêque, il n'y a pas de vocation d'évêque.
Hein. Oui, non.
Au séminaire pour devenir évêque.
Oui.
On rentre au séminaire pour devenir prêtre, curé de paroisse. Que ma passion, c'était d'être curé de paroisse. Et quand je suis rentré au séminaire pour le diocèse de Lyon, mon désir, c'était d'être curé de campagne. Mais je m'étais dit, bon, bah Lyon, c'est quand même une ville qui n'est pas tellement dans la campagne.
Pas hein, trop.
Voilà. Donc je me suis dit, bon, bah ça sera sûrement pas ça. Mais en fin de compte, la grâce de Dieu aidant, j'ai quand même été curé de campagne plusieurs fois.
Oui, puisque j'ai vu que vous étiez à Balbigny, hein, dans la Loire.
Voilà, ça a été mon premier poste de curé à Balbigny, où je suis resté 7 ans, de 2005 à 2012. Des très belles années. J'ai beaucoup aimé ces années-là à Balbigny, dans les communes environnantes.
Et après, vous avez continué, donc...
Alors après, j'ai été envoyé sur Lyon.
Ouais.
J'ai été nommé curé d'une paroisse, c'était la paroisse de la Garde la Part-Dieu, c'est facile à trouver.
Oui.
Et vicaire épiscopal, c'est-à-dire un adjoint de l'archevêque de Lyon, le cardinal. Et après, il m'a nommé vicaire général assez rapidement. Donc j'ai été son adjoint pendant 6 ans.
D'accord. Et ensuite.
Après j'ai souhaité arrêter d'être vicaire général parce que ça avait été assez lourd et assez pesant.
Oui.
Et donc, j'ai souhaité être nommé curé dans la campagne et je suis retourné dans le Rouennais, à Charlieu.
Ah ouais, en plus.
Voilà, Charlieu, une très belle ville.
Oui.
Mais j'y suis resté qu'un an et demi, puisqu'au bout d'un an et demi, voilà, le pape m'a confié cette mission d'évêque du Puy-en-Velay.
Oui, alors pour les gens, même moi, qui ne connais pas trop le parcours, là, c'est le pape qui nomme les évêques, hein.
C'est le pape qui nomme les évêques. Alors évidemment, c'est pas lui qui fait tout le travail.
Oui, bien sûr. Il a ses
collaborateurs, oui. Tout ça. Et c'est le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape en France, qui gère le dossier. Donc c'est lui qui fait l'enquête préalable et qui annonce au candidat qu'il est appelé à être évêque. Donc c'est le nonce apostolique qui m'a appelé, qui m'a demandé de venir le voir à Paris. Et c'est là où il m'a annoncé que j'étais nommé évêque du Puy-en-Velay.
C'est votre premier poste?
Ah oui, c'est mon premier poste, que j'ai été ordonné évêque au Puy.
D'accord. Ah oui, donc l'ordination, comment on dit, c'est ça. C'est le Haut-Puyre. Donc c'est vraiment votre premier poste. Ah, vous découvrez. Vous connaissiez la Haute-Loire ?
Alors je connaissais le Puy-en-Velay, la ville, un petit peu, pour être venu en pèlerinage et avoir accompagné des groupes. Mais je ne connaissais pas très bien la Haute-Loire. Et de loin où j'étais, je me suis dit, la Haute-Loire, bon, ben, c'est un diocèse rural, un département rural, qui doit être assez uniforme. Et puis maintenant que je connais, que j'ai sillonné un petit peu le diocèse...
C'est pas trop uniforme.
C'est pas vraiment uniforme. Bon, je m'aperçois qu'il y a des grandes disparités, des grandes différences entre l'Est et l'Ouest, entre la partie auvergnate et puis la partie du Velay, et puis tout ce qui est plus à l'Est aussi, Jean de Monistrol, tous ces coins-là qui sont tournés vers
la Loire.
Saint-Étienne et la Loire.
Alors, c'est un choix. Vous êtes passé dans toutes les paroisses ou c'est le père, Luc Crépy, lui, il était resté. Il a fait vraiment toutes les paroisses. Il était resté 3 jours dans chaque paroisse. Vous avez fait un peu pareil, vous ?
Alors oui, moi j'ai commencé par aller voir les prêtres.
Oui, d'accord. Ouais.
J'ai pas tous vus, mais la plupart quand même. Et là maintenant, depuis la rentrée de septembre, j'ai programmé les visites pastorales.
D'accord.
C'est-à-dire un temps plus long où je passe, donc c'est 4 jours, du jeudi matin au dimanche, où je passe les 4 jours dans un ensemble paroissial. Et c'est une de mes premières visites pastorales que je fais ici à Craponne.
D'accord. Oui, c'est vrai que pour nous aussi, c'était un petit peu nouveau parce qu'on n'avait pas le souvenir d'évêques qui avaient fait ça. Hein, et en plus, il y avait eu un peu... quelque chose de spécial, puisque Luc Crépy avait été au Mazet-Saint-Voix, qui est bien sûr protestant,
bien sûr,
et qui n'avait pas vu un évêque depuis 400 ans. Donc, c'est quand même... il me l'avait expliqué, c'est vrai que c'était... Enfin, bon.
On va peut-être pas attendre 400 ans pour qu'il en voie un deuxième.
Oui, j'espère. Alors, on a le père Jérôme, quand même, là, qui... Il y a longtemps que je lui disais, à chaque fois que je le voyais, je lui dis, vous venez, et il me disait, il est un peu timide, pas trop. Alors, vous, c'est un petit peu spécial aussi, parce que vous venez de... Vous êtes de quel pays, vous?
Je viens du Vietnam.
Vous êtes un Vietnamien, ouais. Vous êtes arrivé ici, je crois, à l'âge de 14 ans. Dans quel âge, 15 ans?
En fait, je suis venu en France en 2002,
ouais,
envoyé par l'évêque du Vietnam pour chercher une porte qui s'ouvre pour que je puisse faire des études aussi, devenir prêtre, voilà. Et donc, le diocèse du Puy m'a accueilli et depuis 2005, je suis attaché dans le diocèse du Puy en Velay.
Oui, alors vous aussi, c'est une aventure parce que du Vietnam à la Haute-Loire, il y a... Il y a un parcours, hein, et puis c'est pas tout à fait le même pays. Hein.
Voilà.
Comment vous êtes adapté, oui? Ça n'a pas été trop difficile?
Au début, c'est un peu difficile, mais voilà, il faut de la patience. Et même aujourd'hui encore, je suis nommé curé de l'ensemble paroissien de Sainte-Famille depuis 2002. Mais il faut encore du temps pour découvrir... s'adapter et aussi proposer la foi et aussi au service des uns des autres. Et c'est vraiment, nous sommes très heureux, très contents de la visite de notre père évêque pendant 4 jours. Voilà. Avec des personnes âgées et aussi dans d'autres célébrations. Lorsque le père Crépy est parti, nous prions pour notre nouvel pasteur. Et donc, voilà, le père est là et il est allé rencontrer les uns des autres. Et vraiment, les gens, ils sont heureux, contents d'avoir voir comme le résultat de leur prière. Et aussi, il y a plein de bonnes choses qui se vivent dans les rencontres depuis le jeudi.
C'est votre chef?
Oui.
Et alors, vous parlez bien le français, vous l'avez appris au Vietnam ou vous l'avez appris en France?
J'ai appris un peu au Vietnam, mais presque j'ai tout recommencé depuis que je suis en France, oui.
Vous avez encore de la famille, je présume, là-bas?
J'ai encore mes frères et sœurs, mes
parents. Vous y retournez de temps en temps ou jamais?
Si, si.
Oui,
déjà...
il ne faut pas couper quand même les...
Oui, et peut-être l'année prochaine,
je retournerai. Oui, c'est compliqué d'y retourner,
oui.
Eh bien, ça nous fait plaisir que vous soyez venu. En plus, vous êtes un jeune prêtre, hein, ce qui est intéressant, hein, je crois.
C'est bien pour Craponne et
oui. L'ensemble paroissial. Hein. Alors, j'aurais dû peut-être commencer par là, parce que votre nom, Yves, alors Baumgarten, c'est quoi comme origine? Parce que c'est pas de la Loire, ça, hein, je pense.
Ah, vous avez tout de suite trouvé que c'était pas vraiment de la Loire.
Non, franchement.
Non, c'est l'origine alsacienne.
Ouais, j'allais le dire. Ouais,
parce mon père est né à Strasbourg.
Ah, d'accord.
Donc, voilà, donc. Je suis lyonnais du côté de ma mère et strasbourgeois, alsacien du côté de mon père.
Ouais, c'est bien des noms de là-haut. Alors donc, comme disait le père Jérôme, ben, ça fait plaisir parce que, alors, pour les gens, quand on parle d'évêque, on a l'impression que c'est déjà inaccessible et je crois qu'il faut vite s'enlever ça de la tête parce que c'est pas du tout ça. Hein.
Non, bon, moi je suis l'évêque.
Ouais.
J'ai la mission, évidemment, d'organiser l'église sur la Haute-Loire, mais mon but c'est d'aller à la rencontre des gens, des habitants ici de Craponne et des communes environnantes, et puis de les rencontrer tout simplement. Donc je suis allé dans les écoles, dans les collèges, dans les maisons de retraite, dans les salles paroissiales pour rencontrer les groupes de paroissiens, et on a échangé en toute simplicité, en toute liberté sur les difficultés puis les joies de ce qui se vit ici.
Oui, alors c'est vrai que, alors c'est très compliqué, hein, enfin, que ça soit dans l'église catholique, dans l'église protestante, un peu partout, c'est très compliqué parce qu'on sent qu'il y a un peu, c'est mon avis, attention, c'est que le mien, hein, qu'il y a une certaine désaffection quand même, peut-être des jeunes, alors est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas, c'est vrai qu'il y a, on est tous un peu déçus de voir peu de jeunes dans nos églises. Alors, c'est pas parce qu'ils sont pas dans les églises qu'ils n'ont pas la foi.
Oui, non plus, hein, ça veut pas dire. Hein.
Moi, je suis allé dans le collège, ici, Notre-Dame, j'ai rencontré les jeunes qui étaient là. C'est des jeunes qui sont bien dans leur tête aussi et qui se posent des questions. Et je pense qu'ils ont envie de croire. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, il y a tellement de choses qui sont proposées. Il y a tout un contexte qui ne rend pas toujours facile la foi. Mais vous voyez, j'étais hier matin avec les élus, avec le maire de Craponne et d'autres maires des communes. Ils me disaient aussi les difficultés de rassembler les gens, de relancer les associations. Et
c'est
ça.
Vrai.
Donc on est dans un contexte un petit peu difficile, un peu de morosité. Et je crois qu'il faut vraiment lutter contre ce climat-là. Il y a des très belles choses dans l'Église, il y a des très belles choses dans nos pays, ici à Craponne et ailleurs. Et il faut mettre ça en valeur. On a des richesses. Et je crois que les gens sont finalement assez heureux de vivre ici. Eh bien, mettons ça en valeur et soyons aussi, nous, des chrétiens, capables d'appeler d'autres chrétiens, les jeunes aussi.
Oui, alors, bon, on est dans un monde en constante évolution, hein, ça on s'en est rendu compte. Ouais. Donc, peut-être aussi qu'il faut... Alors, l'Église tout doucement évolue, mais peut-être faut évoluer encore un peu plus. Alors, comment? Alors, ça, je vous le dirai pas. Hein, moi, c'est pas mon rôle. Mais c'est difficile, on le comprend. Hein. Comme vous disiez... Les associations manquent de bras, hein, on le sait. Essayer d'aller vers les jeunes pour les faire revenir, quoi, je veux dire.
Non, je crois qu'effectivement, vous l'avez bien dit, il faut savoir à la fois évoluer, parce que le monde bouge et il ne faut pas être en dehors du monde, mais il faut savoir garder certains principes, certaines valeurs de stabilité qui rassurent. Aujourd'hui, on est un peu dans l'inquiétude du lendemain, et quand on peut rassurer les gens en disant, ben voilà, les valeurs, les principes sont les mêmes, ben, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. On a besoin à chaque fois de faire un équilibre entre ce qui est stable et ce qui évolue. À nous de trouver ce bon équilibre.
Oui, alors, puis on s'est rendu compte, enfin, en rencontrant pas mal de gens, que quand même il y a un rapprochement. Bon, on parle des protestants, on parle des orthodoxes, on parle... Il y a quand même un rapprochement entre toutes les églises, parce qu'en fait... Il y a un seul Dieu, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
C'est sûr qu'il y a un seul Dieu. On le voit peut-être pas tout à fait de la même manière les uns les autres.
D'accord.
Nous, on est ouverts au dialogue avec tous, que ce soit au sein de notre religion chrétienne avec nos frères et sœurs protestants, que ce soit avec d'autres religions comme le judaïsme, comme l'islam,
et
comme d'autres religions encore. Nous sommes dans le dialogue. Alors, il ne faut pas rêver à une sorte d'unité.
Oui, bah, bien sûr. Chacun ses différences.
Mais nous sommes dans un dialogue et dans la volonté de se parler et de ne pas se taper dessus.
Oui, c'est peut-être mieux. Oui, c'est peut-être mieux, vous avez raison. Les guerres de religion, c'est un petit peu fini. Voilà. Hein. Et il vaut mieux quand même.
Exactement.
Alors, Père Jérôme, vous aussi, vous êtes en contact permanent avec, bien sûr, tous les gens de la paroisse, enfin, l'unité paroissiale, hein, c'est ça qu'on peut
oui,
dire comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Vous êtes sur le terrain, bien sûr, beaucoup.
Donc, il y a une équipe de trois prêtres, le père Lefort et aussi le père Emmanuel Chazot, que le père évêque vient de nommer.
Oui.
Et donc, nous essayons de proposer, je dis, bon, il y a des messes dominicanes, des trois messes du dimanche dans des différents clochers. Et aussi, il y a des messes, des baptêmes, le mariage et aussi des obsèques.
Ah oui, il y en a beaucoup, ça.
En même temps, aussi, ouais. Des célébrations enfin, dans vie, des hein. maisons de retraite, ouais. La messe tous les semaines.
Oui, ouais, d'accord.
Ouais.
Vous avez combien de prêtres sous vos ordres?
Il y a une centaine de prêtres.
Sur la Haute-Loire?
Sur la Haute-Loire.
Quand même, hein, encore.
C'est un diocèse où il y a beaucoup de prêtres encore par rapport à d'autres diocèses,
ouais.
Moins que par le passé, évidemment. Mais on a encore la chance d'avoir de nombreux prêtres qui sont parfois un peu âgés, mais qui sont quand même vraiment au service. Et c'est très beau.
Oui, parce qu'on parle de la crise, justement, partout.
Vocation,
hein. Oui, la crise de la vocation, il n'y a pas que chez les catholiques, hein, c'est partout. C'est partout, malheureusement. Vous sentez, il y a des jeunes qui reviennent, vous le sentez ça ou pas?
Alors,
qui recherchent quelque chose?
Il y a des jeunes qui recherchent...
Qui se posent des questions, comme vous.
Questions. La difficulté dans un diocèse comme le diocèse du Puy, le département de la Haute-Loire, c'est que les jeunes, d'abord, pour leurs études, ils vont dans des grandes villes, et c'est quand ils sont en contact avec d'autres jeunes qu'ils se posent ces questions-là, donc on les perd un petit peu. Et puis, aujourd'hui, quand il y a une vocation, quand un jeune veut devenir prêtre, il se sent plus à l'aise dans une communauté religieuse, dans une communauté spirituelle, et le fait d'être prêtre dans un diocèse où on est envoyé un petit peu sur le terrain, au charbon, ça fait peur un peu à certains. Donc, à moi, à nous, de leur dire que c'est vraiment beau d'être prêtre en paroisse, dans le rural, et que c'est un très beau ministère.
Oui, ils sont sûrement, c'est plus facile sûrement qu'en ville, hein, parce que
ouais.
Ils sont beaucoup plus proches des gens.
Ah ben, oui.
Alors bon... La question souvent qu'on se pose, c'est le mariage des prêtres, bien sûr, ça revient à chaque fois. Et alors, autant chez les protestants, vous avez des pasteurs femmes.
Exactement.
Et dans l'Église catholique, ça n'existe pas, ça.
Non. Dans l'Église catholique...
Ça vient d'où? Ça vient d'où, d'ailleurs?
Alors d'abord, le fait que ça soit que les prêtres soient des hommes, ben, ça vient du Christ.
Oui, mais...
Lui, c'était un homme.
C'est un homme, oui.
Il l'a appelé comme... apôtre des hommes.
Ouais.
Voilà, c'est un choix qui a été fait aussi de poursuivre cette figure même du Christ. Dieu
D'accord.
s'est incarné en Jésus-Christ, dans l'homme Jésus,
D'accord.
et l'incarnation se poursuit à travers les prêtres jusqu'à ce jour. Voilà. Ensuite, pourquoi les prêtres ne sont pas mariés? Je crois que c'est aussi parce qu'il y a quand même une alliance qui est scellée entre le prêtre et son Église et le peuple de Dieu. On ne peut pas donner son cœur à la fois au peuple de Dieu et à une épouse. Alors je dis ça, on ne peut pas. Il y en a qui le font, vous le dites chez les protestants,
ouais.
et même chez les catholiques orientaux. Mais dans la tradition de l'Église romaine latine, bien, il y a ce don total de soi. Et je crois que c'est beau, et je crois que c'est intéressant. Alors évidemment, c'est un peu en contradiction avec l'esprit du monde. On sait bien qu'on est souvent un peu critiqué sur ce sujet-là. Mais bon, ça fait quelques... siècle que nous sommes un peu critiqués là-dessus, on entend ces critiques, on essaie d'y répondre. Je crois que c'est un beau ministère dans le célibat et c'est une des richesses de l'Église romaine.
Alors on arrive bien sûr dans la période de Noël, donc qui est une grande fête catholique, hein, c'est vrai, alors qui a un peu dérivé aussi, mais bon, hein, c'est devenu un peu commercial, mais c'est quand même une grande fête et on sait que là, les catholiques là sont vraiment réunis. C'est la naissance de Jésus, hein, donc. Et là, vous sentez qu'il y a des gens qui viennent pas forcément toute l'année, mais qui pour Noël viennent vous aider, viennent. Ça, vous le sentez, Jérôme?
Donc, la fête de Noël précédée par le temps de l'Avent.
Oui.
D'abord avec les enfants du caté, aussi dans les écoles du collège, Nous, en parlant de l'Avent, il y a aussi des temps de célébration. Et ensuite, la foi est proposée, et aussi on peut dire que c'est des événements à célébrer. Et ensuite, la nuit de Noël, il y a beaucoup de... Bon, d'abord, c'est des gens qui reviennent pour regrouper familial, et aussi l'occasion d'aller à l'église pour prier. Et donc, c'est l'occasion que... Il y a possibilité, on peut dire, de se réunir pour prier, célébrer. Et ça donne aussi de la joie. Ouais.
C'est une belle aventure, quand même. Plus de 2000 ans.
Ah ben, exactement, c'est une belle aventure. Ça, y a pas d'autres institutions humaines aussi anciennes que l'Église. Il faut le rappeler, ça. Hein,
oui.
Mais là, plus de 2000 ans, quand même. Avec des périodes plus ou moins faciles. Mais c'est vrai, pour revenir sur la fête de Noël, je crois que les gens... ils ont dans leur cœur certains événements forts dans l'année. Et pour beaucoup de monde, la fête de Noël, ça garde ce caractère sacré. C'est quelque chose à la fois qui les replonge dans leur enfance, dans leur ambiance familiale. Mais ils se rendent bien compte qu'il y a là quelque chose de plus grand, de plus fort que tout. C'est Jésus, celui qui est venu apporter la paix. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que il faut revenir à des choses simples, vraies, fortes, comme cette célébration de Noël, et ils le vivent.
Hein. Alors avant, il y avait les trois messes, ça n'existe plus, ça.
Alors, les trois messes, oui, c'est les trois messes qui étaient faites un petit peu les unes derrière les autres.
Oui, les unes derrière les autres, ouais, je me rappelle. Ouais.
Les trois messes, elles existent toujours, puisqu'il y a une messe de la nuit de Noël.
Oui.
Il y a une messe de l'aurore, qu'on fait assez peu, parce qu'elle est bientôt le matin, et il y a une messe du jour.
D'accord.
Donc, ces trois messes sont déployées sur 24 heures sur le temps de Noël.
Oui, puis peut-être, alors bien sûr, hein, on est dans un monde en perpétuelle mutation. On disait que la Deuxième Guerre mondiale, c'était la dernière. On se rend compte qu'il y en a encore. Et peut-être c'est ces moments-là où les gens se rappellent un peu que nous, on aura la chance de faire un Noël normal. Je dirais, mais dans certains pays, bon, pour parler de l'Ukraine, puis c'est près de chez nous, enfin près de nous, puisqu'on a des Ukrainiens qui sont chez nous, ça veut dire que nous, on a cette chance, il y en a d'autres qui l'auront pas, quoi. C'est un peu compliqué quand même. Hein.
C'est toujours compliqué. On est dans un monde qui est marqué par l'injustice et par la violence et la guerre. Malheureusement, on a beau faire des efforts pour la paix, et je sais que les hommes et les femmes de ce temps ont fait des efforts pour la paix. Malheureusement, il y a encore des bruits de guerre. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans une désespérance et dans une fatalité. Il n'y a pas de fatalité à la guerre. Il faut vraiment lutter contre toute forme de violence et toute forme de guerre. C'est la paix qui doit triompher. Elle triomphera encore, quoi qu'on le veuille, mais ça risque de prendre du temps, malheureusement.
Donc aujourd'hui, nous sommes avec le père Jérôme et l'évêque Yves, hein, je vous appelle comme ça, parce que c'est... Baumgarten, c'est ça,
Yves,
votre nom ?
C'est mon prénom, donc on appelle les évêques par leur prénom.
Oui, c'est bien, c'est mon frère s'appelle Yves. Bon, voilà, donc. Et on est très heureux de vous rencontrer, parce que moi aussi, je vous connaissais pas, hein, j'avais connu Luc Crépy, puisqu'il était venu, mais ça fait plaisir de vous voir, et de voir peut-être les gens qui nous écoutent. On sait que surtout le dimanche matin, ils sont nombreux, vous êtes accessible. Yves Baumgarten, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de nous, hein. Enfin, il est au-dessus de nous, peut-être par sa fonction, mais il est très accessible, quoi. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête, je crois, hein.
Alors, pour moi, je suis pas au-dessus des gens.
Non, mais je rigolais, là.
D'accompagner, de rassembler, de guider. Ouais. C'est pas une situation d'être au-dessus. On essaye d'impulser une dynamique dans l'église, et c'est comme ça que je vois ma mission.
Oui, puisque ça vous est 100 prêtres, ça fait du monde quand même. Hein.
Ça fait du monde.
Vous êtes un vrai chef d'entreprise.
Parce qu'il y a les prêtres, mais il y a aussi des diacres.
Oui, il y a les diacres aussi.
Il y a ici à Craponne.
Oui, il y en a, oui. Ah, oui.
Il y a aussi toutes les personnes qui sont salariées par l'Église. Hein. Il y a des secrétaires, ainsi de suite, mais il y a aussi des animatrices laïques en pastorale.
Oui.
Et puis tous les bénévoles. Il y a énormément de bénévoles en Église. Là, je faisais des rencontres avec les différents groupes de la paroisse. Mais sur une paroisse comme Craponne, je suis sûr que si on comptait vraiment tous ceux qui sont au service de l'Église, on arriverait vite à 150 personnes.
Ah oui, quand même, oui.
Ah, oui.
Alors juste, puisque vous avez parlé, parce que l'autre fois on en parlait justement avec Jacques, là, qui est animateur aussi, la différence entre le diacre, Qu'est-ce que c'est la différence entre un diacre et un curé? Voilà.
Alors.
Parce déjà, que c'est bien de le savoir. Moi, je suis un peu lu, mais j'ai pas tout compris.
Alors, il y a le prêtre. D'abord, les prêtres, ce sont ceux qui sont ordonnés prêtres pour célébrer la plupart des sacrements, dont l'Eucharistie, hein, qui est le plus grand des sacrements. Eux, ils ont donné totalement leur vie au Seigneur et ils sont missionnés par l'évêque. Certains deviennent curés. Que des prêtres peuvent être prêtres sans être curés.
D'accord.
Vicaire de paroisse, ils peuvent être aumôniers.
D'accord.
Certains sont curés, c'est-à-dire responsables d'une paroisse. Et puis, il y a le ministère des diacres. Donc, les diacres, c'est un ministère qui est proposé là à des hommes mariés, en situation professionnelle, pour signifier que la mission, elle se vit dans les familles, elle se vit dans des milieux professionnels. Et c'est pour ça que les diacres ont cette spécificité d'être des hommes dans une famille et des hommes au travail.
Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire.
Alors, ils ne peuvent pas célébrer.
Voilà, c'est ce que j'avais lu.
Mais ils célèbrent baptême.
Ouais, ils mariage, peuvent. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais un peu compris. Voilà. À part ça, bon.
Ah, vous avez des bons souvenirs de votre catéchisme.
Ouais, c'est un peu vieux, hein, mais bon. J'étais à l'école juste à côté, là. Hein, parce que l'école des frères était juste à côté à l'époque. Oui, alors là, j'avais pensé à quelque chose. Ça y est. Il y en a beaucoup de diacres à Haute-Loire?
Il y en a 17.
Quand même.
Ouais, je viens d'en ordonner deux.
C'est vous qui les ordonnez aussi?
C'est moi qui les ordonne, ouais. C'est une vraie ordination.
Hein. D'accord.
Donc j'en ai ordonné deux, là, il y a un mois. Et donc il y a des vocations beaucoup plus nombreuses de diacres permanents.
Oui. D'accord. Oui, c'est un renfort aussi un peu pour l'Église.
C'est un renfort pour l'Église et c'est un beau signe hein, pour l'Église. Oui.
Et puis en plus, ils sont vraiment... en plus, celui qu'on a ici, par sa profession, il est vraiment...
Ouais, il est vétérinaire. Donc,
il est au cœur de la campagne. Quoi.
Voilà.
Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut faire que des souhaits, hein, que... Notre monde s'améliore un peu, mais ça, il faut... On rêve peut-être, mais il faut rêver. Le rêve, ça coûte rien. Hein, donc,
on peut rêver, on peut prier aussi.
On peut prier aussi. Prier. Ouais. Oui, bien sûr. Hein, c'est chacun, je dirais...
Dans sa foi.
Voilà.
Demander au Seigneur que l'après de Noël puisse entrer dans les familles et dans tous les pays.
Ouais, mais je crois qu'aussi, il faut savoir que c'est pas... Alors, on en parlait des fois avec François, même avec d'autres prêtres que j'ai connus... C'est pas forcément parce qu'on va pas à l'office du dimanche que on ne croit pas hein, ou qu'on n'a pas des sensations. On peut avoir même chez soi hein, des.
Il y a plein de manières de
pratiquer plus,
et de vivre sa foi. Je crois que c'est évident qu'on peut prier devant un beau coucher de soleil. On peut prier devant une montagne enneigée. On peut prier chez soi simplement devant une icône. Je crois que c'est important aussi de se rassembler. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Parce
exactement.
Que quand on est tout seul, c'est un peu difficile.
Donc,
le rassemblement est aussi un signe fort pour s'entraider les uns les autres.
Alors bon, les messes. Alors c'est vrai qu'aussi peut-être ça. Est-ce que ça peut. Alors ça a déjà évolué. Parce que moi je me rappelle de mon temps, le curé il tournait le dos. Et moi, ça m'avait surpris parce que j'avais de la famille en Suisse. Et moi, comme c'était tous des protestants, j'allais avec eux hein, parce que j'avais pas le choix. Et ça m'avait surpris de voir que le pasteur était face aux gens qui étaient là. Alors, c'était en latin. Alors, tout le monde comprenait pas le latin. Hein. Ça, c'était un.
Il y en avait assez peu qui comprenaient le latin.
Oui. Ça, ça a été un grand pas quand même hein, du côté de l'Église.
Exactement. Oui. Maintenant, je pense que les gens peuvent être. Plus à même de participer activement à la célébration, ils comprennent, ils répondent, ils chantent. C'est vrai que c'est une vraie beauté qui est proposée ainsi.
Écoutez, merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez. Oui, Jérôme, allez-y, je vous en prie.
Peut-être juste permettre de rappeler que le Père évêque va célébrer la messe pour clôturer sa visite pastorale à 10h30 à Crapaud.
Oui.
Une messe unique qui nous permet de rassembler tous les veilleurs, des paroissiens de différents clochers. Voilà, nous avons 17 clochers sur notre ensemble paroissien. C'est une grande messe qui va...
Il y aura du monde aujourd'hui à la messe.
J'espère.
Alors, on fait un peu de publicité, voilà.
Oui, mais il faut... Non, mais je veux dire, c'est ce qu'on parlait... Bon, moi je vois un peu plus François parce qu'il a écrit des bouquins... Ouais. Mais c'est ce que je disais, la communication c'est très important, hein, même dans la religion. Hein.
On est conscient.
Ouais, non mais c'est vrai, il faut.
Il faut.
Ça déjà les gens, là, ils sont à 100 lieues de. Mais bon, on voit que bah, y a des choses à faire. On vous a rencontré aujourd'hui. On est très heureux. Maintenant, on mettra une tête sur,
sur le nom.
Sur le nom, et puis sur notre évêque, on le connaîtra. Et voilà, en plus, vous êtes dans une très belle ville, au Puy-en-Velay. La chance, alors c'est devenu aussi un peu, enfin un commerce peut-être, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc vous les voyez.
C'est un commerce.
Parce non, que pas un commerce, non.
Les pèlerins qui partent.
Oui, oui, j'en ai rencontré,
ils
moi.
Ils ne sont pas très, très fortunés, quoi.
Ouais. Non, mais je veux dire.
Oui,
non, vous savez,
il y en a qui
le font.
Autour.
Bon, moi j'en ai rencontré, oui, parce que j'avais fait 2-3 interviews, là, j'avais rencontré un gars, là. Il m'avait scotché quand même, hein. Il y en a qui partent, mais qui sont vraiment dans leur truc, hein.
Ben, ça, il y en a, c'est impressionnant.
Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est.
Je suis pas sûr que je le ferai, moi.
Ouais. Ben, on dit qu'il faut le faire tout seul.
Ou oh, alors, ce.
Pour
ça,
pouvoir.
Pas, peut-être, oui. Peut-être,
pour.
J'essaierai de le faire un jour,
pendant ouais.
plus de temps.
Ouais.
J'espère que j'aurai encore des bonnes jambes. c'est beau à faire, en tout cas. C'est très beau.
Ouais.
C'est un beau pèlerinage.
Mais écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite
merci
un joyeux Noël
aussi.
Avec un petit peu d'avance.
Ouais. Hein. Merci à vous.
Puis merci d'être venu. Ça nous a fait très plaisir. Je suis content d'avoir eu le père Jérôme qui venait jamais. Donc j'allais lui tirer les oreilles.
Je connais le chemin maintenant.
Oui, ça y est.
Donc, j'espère que je viendrai.
Non, mais c'est ce que je dis toujours. Ouais. Ne vous gênez pas. Il y a des gens qui nous appellent, qui viennent. Ils ont l'impression que. Ils nous... Au contraire, je dis, mais nous, si on ne fait pas ça, on ne sert à rien. Nous, on est comme vous, hein. Enfin, pas. C'est de la proximité, on est avec
oui,
les gens.
Exactement.
On parle des gens du coin, sinon, on ne sert à rien. Hein. Des radios, il y en a 10 000. Mais on essaye de faire vivre le pays, quoi. De parler ben, comme de vous, Jérôme, de vous, Yves, qui venez d'arriver. On fait découvrir aux gens qui sont pas forcément, qui vont pas forcément à la messe, mais aujourd'hui, ils vont dire, bah, tiens, on a un nouvel évêque, finalement, il est pas si mal que ça. Donc, on va essayer de le découvrir. Mais merci. Écoutez, joyeux Noël à tous les deux, merci d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, bonne messe.
Merci,
hein. Merci. Merci beaucoup.